me pose cette question, je regarderai les autres questions après. Il faut quand même avancer un peu. Mais cette question est très générale, c'est un peu la question que vous avez posée au point de départ, peut-être pour préciser toujours plus. Pouvez-vous revenir sur l'être intentionnel? C'est très général. Hein. Qu'est-ce que c'est? Peut-on dire qu'il est toujours réel, mais qu'il est soit accidentel, soit substantiel? Qu'en est-il pour le concept, l'amour spirait, le secret, l'aimer dans l'aimant, la semence, la grâce, les sacrements? Comment préciser intentionnel et sacramentel? Oui. C'est au fond le point de départ du cours sur la sacramentalité. Qu'est-ce que c'est que la sacramentalité? Il faut découvrir que dans l'ordre surnaturel, la sacramentalité est analogue à l'intentionnel dans l'ordre proprement philosophique et l'intentionnel par rapport au réel substantiel. C'est une question très générale, mais je crois qu'elle est importante. Alors je vais essayer d'y répondre rapidement pour ensuite entrer dans l'autre partie du mystère du sacerdoce, essayer de comprendre le point de vue de l'ordre sacramentel, l'ordre comme instrument. Alors je réponds tout de suite. Hein. Il serait intéressant, au point de vue philosophique, de voir à quel moment naît l'intentionnalité. Je crois que l'intentionnalité, le philosophe est obligé de l'expliciter à propos de la distance qui existe entre l'être et la vie. S'il n'y avait pas de distinction entre l'ordre de l'exister et l'ordre vital, on n'aurait pas besoin d'inventer l'intentionnalité. C'est-à-dire, on n'aurait pas besoin de préciser ce qu'est l'intentionnalité. Je m'explique. Il s'agit d'expliquer comment, dans la semence, est contenue virtuellement, intentionnellement, la réalité, le vivant. Ce que les biologistes aujourd'hui disent, de façon très très précise, et c'est très intéressant, que dès le premier moment du concept, le chiffre de l'homme est donné, le chiffre biologique, dès le premier moment de la conception. La semence contient virtuellement tout le vivant. Chose étonnante, ça. C'est que de fait, la semence contient virtuellement, intentionnellement. Alors vous voyez ce passage de l'intentionnalité à l'aspect virtuel. Virtualité. L'intentionnalité a cette souplesse particulière à la différence de l'être réel. Quand il s'agit de la semence dans son exister, c'est le point de départ. Cette semence est orientée, il y a un ordre. Cette semence est orientée vers le point de vue du vivant parfait. Passage de l'imparfait au parfait. Et le parfait est présent dans l'imparfait, il est présent dans l'imparfait, intentionnellement. Il est présent virtualitaire dans l'imparfait, au niveau vital, au niveau de l'être. Nous faisons la distinction entre ce qui est en puissance, ce qui est en acte. Et la distinction de ce qui est en puissance et de ce qui est en acte est une distinction radicale dans l'ordre de l'être. Donc, ce qui est en puissance n'est pas l'acte. Allô, allô, hein? Et Aristote le dit avec force. Et donc, nous découvrons là l'ordre de ce qui est imparfait, de ce qui est en puissance, vers ce qui est en acte. Ce qui est très curieux dans l'ordre de la vie, et c'est justement tout ce qui explique la question du vivant comparativement à l'aspect de l'être. Le vivant, d'une certaine manière, comprenons bien, fait que la distinction entre l'être en puissance et l'être en acte est comme dépassée. Et l'intentionnalité va exprimer comment l'être vivant, imparfait, possède cependant l'ordre vers le point de vue du parfait. Ça, c'est très important, parce que ça fait comprendre quand même pas mal de choses, et ça fait comprendre du reste, si on regardait bien avec Suaret, la distinction de l'être en acte et l'être en puissance est très télescopée. Parce qu'il regarde le point de vue du vivant. Il n'a pas assez distingué, je crois que c'est un des aspects où Suarez n'a pas saisi avec suffisamment de profondeur la distinction d'Aristote entre l'être en acte et l'être en puissance. Et alors, vous voyez, c'est ça que je crois qu'il faut essayer de saisir. C'est pas commode, ici on est au niveau de la vie. Mais parallèlement au niveau de l'être. Au niveau de l'être, qui va plus loin qu'au niveau de la vie, vous avez la distinction de l'être en puissance et l'être en acte. L'être en acte, c'est le parfait. L'être en puissance, c'est l'imparfait. Vous ne pouvez pas dire que l'être en puissance contient virtuellement l'être en acte. Vous ne pouvez pas dire ça. Il y a une distinction radicale entre les deux. Non, vous supprimez la distinction de l'être en acte et l'être en puissance. Donc, allô, allô, c'est autre, autre. Et c'est une division de l'être. Hein. C'est une division dans l'ordre de l'être. Quand je passe dans le domaine de la vie, c'est quelque chose de très particulier. Parce que dans le domaine de la vie, vous avez le point de vue de l'être et le point de vue du devenir qui sont présents. La distinction que nous faisons en philosophie entre être et devenir, qui est quand même une distinction capitale, et vous voyez bien que la distinction entre être et devenir fait que la distinction entre être en puissance et être en acte va prendre des modalités différentes quand il s'agit du devenir et quand il s'agit de l'être. Puisque dans le devenir, l'être en puissance pour l'individu est antérieur à l'acte. Alors qu'au niveau de l'être, l'acte est antérieur à la puissance. Vous avez donc une inversion. Et c'est ça qui fait comprendre comment, de fait, le point de vue de la vie, qui implique les deux. Je ne dis pas que la vie, c'est la synthèse de l'être en acte et en puissance, la vie biologique. Mais dans la vie biologique implique nécessairement un regard vers l'être et un regard vers le devenir. Le vivant, il existe et il est en devenir. Tout vivant que vous constatez, il est en être, il existe et il est en devenir. Il est en acte et il est en devenir. Et c'est pour ça que quand je suis au niveau du vivant, c'est pour ça que c'est si difficile de saisir ce que c'est que le vivant. Parce que je crois que pour saisir vraiment ce que c'est que le vivant, il faut à la fois saisir le point de vue de l'être et le point de vue du devenir. Il y a les deux aspects qui sont présents dans le vivant. Et alors, pour expliquer la distance qui existe dans le vivant en acte, la semence, il est imparfait, il est même en acte, il existe. Et comment il tend vers le parfait? Donc il y a un devenir, il tend vers le parfait. Il n'est pas encore parfait, il est dans un état imparfait qui tend vers le parfait. Nous précisons que le parfait est présent virtuellement, intentionnellement, dans la semence. L'intentionnel va donc essayer d'expliquer cette chose tout à fait particulière du vivant. Je suis, comprenez bien, au point de vue de notre intelligibilité, hein, de notre point de vue, de notre connaissance, l'être est plus intelligible que la vie. Le devenir comme tel est moins intelligible que le vivant. C'est sûr, puisque le devenir implique toujours une primauté de la puissance. C'est pour ça que d'une certaine manière, le devenir vous échappe. Ce qui est en puissance n'est compréhensible que par rapport à l'acte, au point de vue d'intelligibilité. Or, dans le devenir, dans ce qui devient, l'être en puissance est antérieur. Donc, le devenir possède en lui-même une inintelligibilité. Le vivant, il est et il devient. Il a une forme plus intelligible que le devenir, dans son immanence, il est moins intelligible que l'être. Si je traduis cela, et je suis toujours obligé, je crois, de toujours regarder les trois, l'aspect l'être, le devenir, le vivant. J'ai toujours les trois aspects. Et si je veux comprendre comment je suis obligé d'inventer, il faut bien dire, le philosophe a inventé, à un moment donné, le philosophe a été devant l'admiration extraordinaire du gland qui contient le chêne, le grain de blé qui contient tous les autres grains de blé. C'est inexplicable. Il y a là quelque chose qu'on ne comprend pas et que vous ne pouvez pas comprendre. C'est tout le mystère de la fécondité. Comment cette chose extraordinaire que la semence contient virtuellement, intentionnellement, le parfait. Alors comment de l'imparfait vient le parfait, hein? Et on sait très bien comment ça peut s'étendre à tout problème de l'évolution. Comment l'imparfait contient le parfait? Parce que vous n'avez qu'à pousser ça jusqu'au bout, en oubliant la distinction de l'être et du devenir, et vous avez l'évolution. L'évolution, c'est de faire de la vie une métaphysique, une métavie. Et vous avez l'imparfait qui devient le parfait. Alors ça peut aller jusqu'au bout. De l'imparfait vient le parfait, vous êtes capable d'aller jusqu'à Dieu. Parce qu'au fond, le vivant parfait, c'est Dieu. Et donc nous sommes virtuellement Dieu. Vous voyez bien. Je pousse jusqu'au bout, je fais une métavie. Nous sommes virtuellement Dieu. Nous sommes ouverts à cela, nous sommes ouverts à l'infini. Parce que le vivant, du fait même qu'il existe, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Sauf si vous voyez que, justement, il y a une distinction entre le point de vue métaphysique, philosophie première de l'être, et le devenir. Le devenir met la limite. Dans le devenir, la limite est présente. Et donc, la limite, elle se trouve dans l'intentionnalité. On est ordonné, non pas à n'importe quoi, on est ordonné à l'état parfait de la semence. À l'état parfait, la semence implique une nature, une phusis. Vous voyez, la phusis, ça se comprend à partir du devenir. La semence est une semence de telle nature. Et ce sera l'état parfait de telle nature. Et donc là, je limite à cause du devenir. À cause du devenir, j'ai la limite présente dans l'intentionnalité. Donc, l'intentionnalité n'est pas par elle-même une ouverture à l'infini. L'intentionnalité est par elle-même une ouverture dans un ordre donné. Donc, il y a une double limite dans l'intentionnalité. L'intentionnalité est limitée par le point de vue de la nature qui est au point de départ et par la perfection de cette nature. Donc, l'intentionnalité a une double relation, toujours. La relation vis-à-vis de son origine, vis-à-vis de la semence, qui implique une détermination fondamentale, parce que c'est la semence de telle nature, c'est pas n'importe quelle semence, c'est la semence de tel vivant, et donc qui implique là un ordre vers cela, et un ordre vers le point de vue de la perfection, une ouverture vers le parfait, une tendance vers l'acte, une tendance vers la fin. Et l'intentionnalité, c'est donc, au point de vue de la vie, comme une espèce d'anticipation de la perfection dans l'être imparfait. L'être parfait est présent dans l'être imparfait, par l'intentionnalité. Mystérieusement, hein, il est présent. Et il commande cet ordre. Donc, premier moment, hein, je crois que c'est très important de regarder ce premier moment de l'intentionnalité. Et nous sommes au niveau de la vie biologique. Si je passe du côté de la vie animale, de la vie proprement de connaissance, je retrouve le problème de l'intentionnalité au niveau proprement de la connaissance. Et au niveau de la connaissance, c'est la même chose. Il faut expliquer comment le vivant est capable, le vivant plus évolué, est capable de connaître. Et dans la connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable d'accueillir une forme qui n'est pas la sienne. Donc, il est virtuellement, intentionnellement, le rouge de la rose qu'il voit. Quand je vois le rouge de la rose, intentionnellement, je deviens ce rouge de la rose, au niveau sensible. Et donc, il y a cette ouverture. Alors ici, ce n'est plus la finalité. Ici, c'était la finalité. Cette intentionnalité, virtuellement, c'était vers la finalité, vers le point de vue de l'état parfait. Tandis que quand il s'agit de la connaissance, je suis dans un ordre nouveau d'intentionnalité au niveau de la forme. Je deviens la qualité de l'autre. Qualité, la couleur de l'autre, par les cinq connaissances. Et c'est toujours le point de vue de la forme. Donc, c'est la species, comme disent les autres, disons la forme intentionnelle. Et je parle d'une forme intentionnelle. Tandis que là, je suis vers un ordre de perfection. C'est donc dans l'ordre, c'est une intentionnalité dans l'ordre de la finalité. Et l'intentionnalité dans l'ordre de la finalité et dans l'ordre de l'efficacité, de l'efficience. La finalité implique l'ordre, la détermination, et l'efficience implique la croissance. Puisque de fait, la semence va croître. Et donc, c'est du côté de l'efficience. Ici, c'est du côté de la forme. Et comme c'est curieux, on va avoir toutes les causalités qui vont impliquer l'intentionnalité. C'est le dédoublement de toutes les causalités. Si je passe du côté affectif, du côté des passions, qu'est-ce qu'il retrouve? La passion ne peut pas s'expliquer indépendamment aussi de l'intentionnalité. Mais cette intentionnalité, alors, n'est plus au niveau de la forme, elle est au niveau de la fin, du bien. Je tends vers le bien sensible. Et quand j'aime passionnément, au niveau de la passion bien, le bien sensible est présent intentionnellement. Et donc, c'est de l'ordre du dynamisme de la finalité. C'est le bien, forcément, autrement, je ne tendrai pas vers. Je ne pourrais pas expliquer la passion de l'amour. Je suis en connaturalité vis-à-vis de ce bien sensible qui m'attire. Pensez toujours au chocolat. J'aime le chocolat. Dès que je vois le chocolat, je suis en dehors de mes gonds. Je me précipite. Hein. Chocolat noir, noisette. Alors à ce moment-là, je suis tendu vers. Et je suis en appétit intentionnellement. Alors l'appétit intentionnel, c'est que je suis orienté vers. Et donc c'est le bien. Le bien, c'est la fin. Toute la différence entre la connaissance et l'affectivité. L'intentionnalité est différente. C'est une intentionnalité du côté de la finalité, c'est une intentionnalité du côté formel. La C'est deux intentionnalités différentes, et ici, je suis au niveau d'une intentionnalité sensible. Et au niveau de la connaissance, au niveau sensible. Je peux aller plus loin, et je découvre une intentionnalité nouvelle au niveau de l'intelligibilité. Vous voyez, j'ai trois niveaux de vie. La vie biologique, la vie sensible animale, la vie proprement spirituelle. Et aux trois niveaux, je retrouve le problème de l'intentionnalité. Au niveau de la vie végétale, au niveau de la vie biologique, une seule intentionnalité. Au niveau de la vie de connaissance, deux, connaissance et amour, deux intentionnalités. Et au niveau de la vie intellectuelle, alors, chaque fois que mon intelligence s'oriente dans un domaine, l'intentionnalité change. Alors, on va essayer de voir toutes les intentionnalités du côté de la connaissance. Et faites la petite synthèse de toutes ces intentionnalités. Au niveau du nous, de l'intelligence, vous avez donc l'intelligence séparée, l'intelligence liée à la volonté, à l'amour, et l'intelligence liée à l'imaginaire. Vous voyez bien les trois grandes orientations. L'intelligence séparée, spéculative. Vous avez la forme intentionnelle dans toute sa pureté, le concept. Vous avez, au niveau de l'intelligence liée à la volonté, vous avez la fin intentionnelle, l'intention. L'arche d'intention et l'arche d'amour, hein. L'amour spirituel. Et puis, au niveau imaginaire, vous avez l'inspiration avec l'idéal. Là, vous pourriez mettre aussi le secret. L'ami est mon secret. Quand l'ami est présent dedans de moi-même, parce que je l'aime et parce que je suis présent en lui, il y a un secret mutuel. C'est un secret. Et le secret est dans l'ordre de la connaissance affective, ce que le concept est dans l'ordre de la connaissance spéculative. Et le point de vue de l'idéal. Donc on a le secret, l'intention au niveau proprement acte moral, vous avez le concept, et alors on pourrait multiplier. Parce que le concept, il y a trois niveaux, vous savez bien, l'appréhension, hein. Les appréhensions diverses. Vous pourriez vous demander s'il y a une intentionnalité particulière en mathématiques. Sûrement, du côté imaginaire. Vous avez une intentionnalité particulière. Vous avez une intentionnalité particulière au niveau logique, l'être de raison. L'être de raison est un être intentionnel. Et puis l'être mathématique. L'être mathématique qui fait le lien entre la logique et l'art. Le vivant est entre l'être et le devenir. Il ne faut pas l'oublier. L'être mathématique est entre les deux. Il est lié à l'idéal, parce qu'il y a toute une construction mathématique, et puis il est lié à l'être de raison. Mais il n'est pas uniquement l'être de raison, il est entre les deux. C'est très curieux combien tous les degrés d'intentionnalité correspondent à tous les degrés de vie. Donc, toute notre vie est toujours vécu dans l'intentionnalité. Dès que je veux l'analyser. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Je mets un mot, hein. Je mets intentionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que, justement, notre vie a toujours deux dimensions, l'être et le devenir. Et ces deux dimensions sont une distance entre les deux. Et plus la vie est parfaite, alors rappelez-vous le magnifique article de saint Thomas à propos des degrés de la vie. N'est-ce pas, quand saint Thomas commence le traité de la Très Sainte Trinité dans le Contrat Gentiles, un article magistral qu'il faut avoir lu et relu, parce qu'il est extraordinaire. Ça te montre que plus la vie est parfaite, plus l'immanence est parfaite. Et plus l'immanence est parfaite, ça veut dire que le devenir est comme absorbé de plus en plus dans l'immanence de la vie. Et cette immanence de la vie réclame une présence de l'objet, la fin, plus intense. Et c'est là où on commence à comprendre comment le devenir devenant de plus en plus immanent, nous passons de l'accidentel au substantiel. Et seule la vie spirituelle va permettre une intentionnalité substantielle. La vie biologique ne me permet pas une intentionnalité substantielle, c'est bien évident. La substance, elle est dans la semence. Vous pourriez dire, le vivant parfait dans la fécondité va impliquer une nouvelle semence. Oui, mais là, c'est plus l'intentionnalité. C'est l'aspect substantiel qui est source de fécondité. L'intentionnalité comme telle n'est pas source de fécondité. Parce que ce serait la substance. Alors, l'intentionnalité, c'est toujours une doublure, si j'ose dire. C'est le domaine du hiatus, de la différence qui existe entre l'être et le devenir au niveau de la vie. C'est toujours la distinction entre les deux. Le devenir est le propre du vivant, c'est que j'anticipe le devenir. J'ai la possibilité d'anticiper. Et là, il est présent par le point de vue d'intentionnalité. Alors, ce que je crois être propre à la vie de l'intelligence, de l'esprit, pour l'esprit, parce qu'en réalité c'est l'esprit. C'est l'esprit, l'intelligence est liée à la volonté, l'intelligence est liée à l'imaginaire, dans tout point de vue de l'art, dans tout point de vue de la logique et le point de vue de la mathématique. On a les différents domaines. Alors, il faut comprendre que l'esprit comme tel va pouvoir avoir une intentionnalité substantielle. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis une intentionnalité substantielle? C'est l'intentionnalité du concept. Le concept regarde la quiddité. En gros, la quiddité des réalités. Le concept, dans l'appréhension, peut aussi regarder la ratio actus, comme disait. Donc, j'ai par le concept, au niveau de la connaissance intellectuelle séparée, je touche quelque chose de substantiel. Donc je suis dans un ordre d'intentionnalité substantielle. Ce n'est pas la substance, mais c'est une intentionnalité substantielle, parce que c'est une intentionnalité qui atteint la substance, et pas seulement l'accident. Et c'est la même chose pour le secret de la vie. C'est donc une intentionnalité substantielle, parce que c'est une intentionnalité qui porte sur la personne. Ici, elle n'est jamais substantielle. Elle est au niveau de la forme. Au niveau de substance. C'est l'intentionnalité formelle. C'est l'intentionnalité la plus pure, la plus limpide, c'est l'être de raison. L'être de raison est intentionnel. Purement intentionnel. C'est merveilleux, c'est là la limpidité la plus. C'est le domaine de l'intentionnalité qui s'impose à nous. D'habitude, l'intentionnalité est toujours un moyen. Je dépasse l'intentionnalité, je n'y arrête pas. Il n'y a qu'en logique, on s'y arrête. C'est pour ça que la logique est si admirable. Qu'elle est si limpide. Parce que vous arrêtez d'être de raison. Vous regardez d'être de raison. Et là, vous êtes obligé de le faire, autrement vous ne comprenez pas ce que c'est que la logique. En mathématiques, c'est un peu la même chose. Dans l'art, jamais. Je ne vais pas m'arrêter à l'idéal. Je m'arrête à l'œuvre. Et l'idéal est uniquement une forme intentionnelle qui me permet, qui m'oriente vers l'œuvre. Donc, il y a plus qu'un uni de la logique. La logique, c'est lorsque l'intentionnalité devient l'objet que je considère. Et je ne dépasse pas. Et donc, l'intentionnalité à ce moment-là, j'allais dire, vous voyez, mais ne joue plus le rôle d'intentionnalité, puisque d'habitude c'est un dépassement, ça me permet de dépasser. En logique, je m'arrête. C'est très curieux. C'est très curieux. Ce serait très intéressant de voir le statut particulier de l'intentionnalité en logique. Parce qu'en logique, l'intentionnalité devient l'objet. Je m'y arrête. Donc, l'intentionnalité n'est plus ce qui porte vers l'autre. L'intentionnalité n'est plus cette espèce de pont qui unit le devenir et l'être. En logique, je suis au-dessus du devenir et de l'être, je suis au niveau de la forme pure, l'universel. Et quelle est la forme pure? C'est la relation. Et c'est pour ça qu'en logique, étant donné que je suis en face d'une relation à l'état pur, l'universel, je suis au-delà de la distinction de l'être et de devenir. Et donc, il n'y a plus à faire le passage entre les deux. Et donc, on pourrait dire que c'est là où l'intentionnalité s'éteint, et on pourrait dire aussi que c'est là où l'intentionnalité est magistrat. Je crois que c'est là où l'intentionnalité domine. C'est toujours ce qu'on sent chez les jeux logiciens. Vous voyez ? C'est ce qui peut agacer le philosophe. Vous arrêtez. C'est pas ça, monsieur, je suis trouvé. Mon père Boransky disait toujours, il n'y a qu'une logique qui est objective. C'est l'objectivité la pure. Donc, c'est la logique qui commande tout. En raison même de cette objectivité. Donc, on peut dire que là, l'intentionnalité domine tout et remplace l'objet. Elle prend tout. Elle n'est pas substantielle parce que c'est une relation. Vous avez donc trois domaines qui sont quand même très curieux à regarder. Vous avez donc trois domaines. Le domaine de l'intentionnalité, relation pure. Le domaine de l'intentionnalité substantielle. Le domaine de l'intentionnalité accidentelle. C'est-à-dire la relation est accidentelle. Oui, mais quand la relation s'impose comme une substance, c'est tout à fait différent. Elle n'est plus relation au sens absolu. Or, dans l'universel, c'est ce qui se passe. C'est que je m'arrête à la relation. Et donc, je suis en face d'un intentionnel très particulier. Bon, si maintenant je passe dans le domaine divin, dans le domaine surnaturel, je peux dire que la grâce est une semence de gloire. Je prends l'analogie biologique. Toutes les analogies biologiques sont constantes dans l'écriture. Pour bien faire comprendre justement ce domaine particulier, d'une intentionnalité qui n'est plus du domaine naturel et humain, qui est d'un naturel divin. La grâce est une semence de gloire. Ça veut dire que la gloire est déjà présente dans la grâce. C'est ce que nous disons à propos de l'ascension du Christ. Nous sommes membres du Christ et donc nous sommes montés au ciel avec lui, intentionnellement. Mais quand je dis intentionnellement, je veux dire quelque chose de réel. Hein? Et surtout quand il s'agit de l'intentionnel divin. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'intentionnel biologique et l'intentionnel divin? Et c'est ça qui me semble intéressant à voir. Parce que c'est vraiment ça. Je vous dis, c'est l'oraison. C'est l'oraison de la fête de l'Ascension. Il est monté au ciel. Nous sommes montés avec lui, parce que nous sommes ses membres. Tout ce qui est vrai du Christ, c'est à nous, intentionnellement. Intentionnellement. Mais d'un intentionnel divin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intentionnel divin, la différence de l'intentionnel philosophique? Je crois qu'on pourrait dire que dans l'intentionnel divin, je retrouve les trois intentionnels unis. Je me sers de ces trois intentionnels philosophiques pour comprendre cet intentionnel divin. Relation pure. Je ne fais pas nombre avec le Christ. C'est invraisemblable. Je suis tout tendu vers lui. Alors, un intentionnel accidentel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a quand même un devenir, il y a une croissance. Et puis, substantiellement, il est présent. L'ami est présent dans l'ami, demeurez en moi et moi en vous. Vous retrouvez les trois. Oui, c'est là où on voit quand même comment la philosophie va aider à saisir cet intentionnel divin. Dans cet intentionnel divin, je retrouverai toujours les trois dimensions. Bon. Ceci au niveau de la grâce. fondamentale, au niveau des sacrements. Alors je dirais que les sacrements, à la différence de la grâce, hein, montrent une intentionnalité beaucoup plus pure. Les sacrements, c'est vraiment l'intentionnalité regardée pour elle-même. Et c'est pour ça que dans les sacrements, vous trouvez toujours l'intentionnalité formelle du signe, l'intentionnalité efficace de l'instrument et l'intentionnalité de la finalité. Et tout ça à l'état pur, vous voyez. Je ne dis pas que c'est l'analogue de la logique, mais faisons attention, mais c'est l'analogue de la logique. Parce que l'intentionnalité est regardée pour elle-même. Et ce qui fait que si on s'arrête au sacrement, c'est comme si on s'arrêtait à la logique. Que c'est quelque chose de... C'est une relation, le sacrement. Je n'ai pas le droit de m'arrêter au sacrement. Je n'ai pas le droit de les télescoper, je n'ai pas le droit de m'y arrêter. Je me sers des sacrements. Sacrement de la foi. Je m'en sers pour trouver le mystère. Mais c'est vrai que les sacrements sont au point de vue divin, comme une intentionnalité qui m'est donnée à l'état pur. Et je précise que cette intentionnalité, je la saisis du niveau formel, et donc elle a quelque chose de substantiel, puisqu'elle est toujours rattachée au Christ, à la source. Elle met la source de la grâce en moi. Elle implique toujours un devenir, donc elle est accidentelle dans l'ordre du devenir, et elle touche le point de vue de la fin, puisque la fin et l'objet sont identiques. Alors comprenons bien comment l'intentionnalité des sacrements est à la fois accidentelle et substantielle. Elle est accidentelle dans l'exercice de la foi, elle est substantielle dans son objet et sa fin. Puisqu'elle met la source d'amour en moi. Les sacrements ne sont pas accidentels purement. Les sacrements peuvent et doivent être vécus d'une manière contemplative. Si les sacrements n'étaient qu'accidentels, ils seraient pour la vie active, uniquement. Et alors à ce moment-là, j'utiliserais uniquement les sacrements. Il y a des gens qui utilisent les sacrements. Il faut insister au plus de messes possible. Mais l'utilisation... on multiplie. Toujours les accidents, ça se multiplie. C'est du côté de la multiplication. On doit vivre des sacrements d'une façon contemplative. Alors à ce moment-là, on ne les multiplie pas. On les vit d'une façon contemplative. Mais si je persistais 10 messes pendant la journée, c'est merveilleux, j'ai sanctifié toute la journée. Non, pas nécessairement du tout. Pas nécessairement du tout. Parce que si vous avez existé d'une façon active, et que vous avez assisté à la messe oubliant votre devoir d'État, vous voyez ce que ça fait. Et c'est l'accident qui passe devant. Il faut comprendre que les sacrements sont finalisés et doivent être vécus d'une manière contemplative. Alors à ce moment-là, je comprends que les sacrements me conjoignent au Christ et me mettent dans le Christ, et je les vis d'une façon contemplative. Et en vivant d'une façon contemplative, je comprends que toute la finalité des sacrements, c'est de m'unir au Christ. Substantiellement. Dans la finalité, c'est la vie du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je peux dire ça grâce aux sacrements. Et parce que c'est le Christ qui vit en moi, je n'ai plus qu'un seul souci, c'est de vivre selon les intentions profondes du Christ. Et je veux que les intentions du Christ soient mes intentions. Alors à ce moment-là, ce n'est plus multiplier les actes, c'est vivre comme le Christ vit, c'est-à-dire en contemplant le Père et en réalisant les intentions du Père. Vous voyez comment les sacrements sont pour nous, si nous essayons de comprendre ce petit tableau d'intentionnalité, qui est fait rapidement, mais puisque c'est présupposé connu, hein, c'est une petite synthèse rapide, bon, pour essayer de comprendre comment les sacrements sont quelque chose d'analogue, vous voyez, une espèce de logique sainte et divine qui accompagne toute notre vie. C'est ça les sacrements. C'est le mystère de l'Église, formalisé. Et ça, je crois très fort. Je ne peux rien comprendre à l'Église si je ne regarde pas les sacrements, et c'est à travers les sacrements que je comprends l'Église. Parce que les sacrements font le lien constant entre le Christ et l'Église, entre le Christ et les chrétiens. Et les sacrements sont remis à l'Église. C'est le trésor de l'Église. L'Église ne serait plus rien s'il n'y avait plus les sacrements. Et c'est pour ça que dès qu'on arrête les sacrements, on diminue les sacrements, on diminue le mystère de l'Église. C'est le mystère de l'Église. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment le sacrement d'ordre est un sacrement d'ordre. Parce que c'est le sacrement d'ordre qui va hiérarchiser toute l'Église. Alors, ça va être très intéressant, vous voyez, pour comprendre la politique de l'Église. L'Église est une communauté, c'est une société. Alors, il faut comprendre la finalité, l'Eucharistie. Il faut comprendre la forme de gouvernement, l'ordre. C'est l'ordre qui donne à l'Église sa forme de gouvernement. C'est à travers l'ordre, donc vous voyez, c'est sacrement. L'Église est une communauté qui ne peut pas se comprendre en dehors des sacrements. Et c'est le sacrement d'ordre qui donne à l'Église sa structure formelle, sa forme de gouvernement. La forme de gouvernement de l'Église n'est ni démocratique, ni aristocratique, ni tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? C'est toutes les formes de gouvernement politique. Elle est sacerdotale et elle est sacramentelle. Elle est divine. C'est l'Église, c'est le Christ qui impose à l'Église sa forme de gouvernement. Ce n'est pas l'Église qui l'a choisie. Mais l'Église coopère. Et c'est pour ça que l'Église doit coopérer au Christ à travers les sacrements. Et nous l'avons vu au point de départ, que la coopération à l'égard des sacrements est plus grande qu'à l'égard de la parole de Dieu. Et je crois ça très important, parce que ça nous fait comprendre que ce n'est pas la parole de Dieu qui constitue l'Église. Alors, il faudrait se demander si dans l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est les sacrements. Parce que les sacrements de l'Ancien Testament ne font pas la structure du peuple de Dieu. Ils font l'aspect fondamental, la circoncision. C'est par la circoncision que vous entrez dans le peuple de Dieu. Et uniquement. Après, c'est la parole et les commandements. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'Église, l'aspect fondamental, c'est le baptême, la nouvelle circoncision. Et vous entrez dans l'Église par le baptême. Mais il y a l'Eucharistie, qui est le dépassement de la loi, le dépassement de la parole, et qui donne la structure, et avec l'Eucharistie, l'ordre. Et donc vous avez une structure sacramentelle propre à l'Église qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que si vous êtes séduit par l'Ancien Testament, vous supprimez cette structure hiérarchique de l'Église. Vous la supprimez parce que vous n'avez plus que la structure de la parole. Alors, c'est très curieux. La différence de la structure de l'Ancien Testament qui se fait par le point de vue de la parole, alors vous allez me dire, il y a des fonctions aussi dans l'Ancien Testament. C'est très vrai, il y a des fonctions. Puisque le sacerdoce est un sacerdoce fonctionnel dans l'Ancien Testament. C'est un sacerdoce religieux et fonctionnel. Tandis que le sacerdoce dans le Nouveau Testament est un sacerdoce d'amour. C'est le sacerdoce du Fils. C'est le sacerdoce du Fils. Il structure d'une manière très particulière l'Église. Ce que nous verrons la fois prochaine, ça. Nous essaierons de comprendre comment le sacerdoce donne la structure propre de l'Église, donne la hiérarchie, et fait comprendre la forme de gouvernement de l'Église. Et alors on essaiera de comprendre à ce moment-là ce que représente le point de vue hiérarchique et l'aspect de juridiction. L'aspect de juridiction se rattache à l'ordre. Mais c'est tant beaucoup plus loin. Parce que L'aspect de juridiction se rattache à l'ordre et se rattache au baptême et se rattache à la confirmation. Mais l'aspect de juridiction comme tel donne bien le pouvoir de l'Église dans son efficacité. Et le pouvoir d'ordre, comme on dit, donne la structure fondamentale de l'Église.